VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Avec vous, Henri Francisque, on commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, 3 roquettes ont été tirées aujourd'hui sur la ville de Gao, dans le nord du pays. Bilan, une petite fille blessée, selon notre correspondant sur place, Boubacar Touré. On ignore qui est à l'origine de cette attaque. Plusieurs groupes djihadistes sont actifs dans le nord, en dépit de l'accord d'Alger, censé mettre fin aux violences dans le pays. Mali toujours, réouverture des écoles à Kidal, fief de l'ex-rébellion en présence du gouverneur nommé par l'État. Une première depuis plus de 2 ans. L'État malien n'avait pas repris pied dans cette ville du nord-est depuis des combats en 2014 lors d'une visite du Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, qui s'était soldé par une lourde défaite de l'armée malienne face aux rebelles. Les États-Unis ont transféré dans son pays le Mauritanien Mohamedou Ould Slahi, qui était détenu à la prison américaine de Guantanamo. Les détails avec Anastasie Toudièche.
D'après un communiqué du Pentagone, Washington remercie le gouvernement de Nouakchott pour son geste humanitaire. Mohamedou Ould Slahi, 45 ans, était détenu à Guantanamo sans procès depuis août 2002. Il avait été arrêté en 2001 en Mauritanie, puis a été successivement emprisonné en Jordanie, en Afghanistan, avant d'arriver à Guantanamo. Dans son livre intitulé « Carnet de Guantanamo », publié il y a près de 2 ans, il raconte comment il a été poussé à faire de faux aveux. Les États-Unis l'accusaient d'être un membre d'Al-Qaïda ayant participé à la cellule de Hambourg liée aux attentats du 11 septembre 2001. Le président Barack Obama s'était engagé à fermer le camp de Guantanamo lorsqu'il a pris ses fonctions en janvier 2009. Il y avait 242 prisonniers. Après ce dernier transfert vers Nouakchott, il reste 60 détenus dans cette prison américaine à Cuba.
Au Nigeria, la faction du groupe islamiste Boko Haram, qui a prêté allégeance au groupe État islamique, a affirmé lundi avoir tué 20 soldats nigérians et nigériens dans l'État de Borno. Le point avec Eric Manirakiza.
Le groupe se présente sous le nom de la province ouest-africaine de l'Organisation de l'État islamique. Le chef de cette faction, Abou Mossab al-Barnawi, a affirmé hier que 20 soldats ont été tués, des dizaines blessés, au cours de violents affrontements la veille dans le village d'Asaka, dans le nord-est du pays. Un chef local a confirmé que des djihadistes à bord de 8 véhicules ont pris les soldats par surprise. Ils ont attaqué à l'armée lourde et aux lance-grenades, puis ont emporté 6 véhicules militaires et des armes. En août, le groupe État islamique avait désigné un nouveau chef pour l'Afrique de l'Ouest, Abou Mossab al-Barnawi, un proche de Mamane Nour, rival d'Aboubakar Shekau, qui dirige Boko Haram depuis plusieurs années. Jeudi dernier, la faction de Shekau a libéré 21 lycéennes de Chibok qui étaient en captivité depuis plus de 2 ans.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RDC, 20 personnes ont été tuées entre dimanche et mardi en 3 jours d'affrontement entre pygmées et bantous à Kabalo, dans le sud-est du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le député Kalunga Marwazo, élu de cette localité. 4 loubas et 16 pygmées ont péri. Un bilan confirmé sous couvert d'anonymat par un prêtre catholique de ce diocèse de la province du Tanganyika, dans le nord du Katanga. Motif des affrontements, un désaccord entre les deux parties autour d'une récolte de chenilles. Une redevance coutumière versée aux Bantous par les pygmées. Toujours en RDC, fin ce mardi, des travaux du dialogue politique qui a débuté à Kinshasa le 1er septembre dernier sous la facilitation du Togolais Idem Kodjo. L'accord politique qui doit sanctionner la fin des travaux a été adopté lundi en plénière par toutes les composantes. Cet accord prévoit entre autres la mise en place dans 21 jours à compter de ce mardi d'un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité de l'opposition ainsi que l'organisation couplée de la présidentielle et des législatives et des provinciales en avril 2018. Un reportage sur ce dialogue, toujours boudé par une frange de l'opposition et de la société civile, avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après plusieurs jours de travail en comité restreint et l'annonce le week-end dernier d'un accord trouvé autour de l'accord politique devant sanctionner les travaux, les délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile ont adopté lundi en plénière, sous la direction du facilitateur Edem Kodjo, le tant attendu accord politique pour une gestion consensuelle du pays jusqu'aux prochaines élections fixées en avril 2018. Avant la signature officielle de cet accord prévu ce mardi 18 octobre dans l'après-midi, Vital Kamerhe, chef de file et co-modérateur de l'opposition Dialogue, revient sur ce que sa composante a obtenu.
Pour nous, un, il fallait respecter strictement la Constitution. Le deuxième paragraphe du préambule dit que tout ce que nous faisons se fonde sur la Constitution de la République démocratique du Congo. Le troisième paragraphe du préambule dit que nous prenons tous l'engagement de respecter strictement la Constitution de la République démocratique du Congo pendant cette période intérimaire. Et quels sont les résultats que nous avons obtenus? C'est la date du 31 juillet comme date de la fin de l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, la date du 30 octobre 2017 comme date de la convocation des trois scrutins combinés, la présidentielle, législative nationale et les provinciales, et six mois après, c'est-à-dire le 29 avril, c'est la tenue de ces trois élections combinées. Et conformément à la Constitution, dix jours après, c'est la passation du pouvoir.
Geneviève Inagossi, députée nationale et porte-parole adjointe de la composante majorité présidentielle, revient, elle, sur les points de divergence qui ont été aplanis avant d'aboutir à cet accord. Elle évoque également la possibilité pour le rassemblement de l'opposition qui n'a pas pris part aux travaux de le signer.
Tout le monde s'est accordé sur le fichier électoral, sur les séquences des élections, sur les calendriers électoraux et bien entendu sur la gestion consensuelle de la République après le 19 décembre. Les divergences qui ont été relevées ici ont été aplanies et que la voie est bien balisée pour signer l'accord. L'accord est ouvert pour être signé par toute partie, même celle qui n'a pas participé au dialogue. Du moment où le rassemblement se retrouve dans les dispositions qui ont été arrêtées et convenues ici au niveau du dialogue, il y a toujours de la place pour le rassemblement pour venir signer à tout moment. Mais pas pour remettre en cause l'accord tel qu'il a été convenu par les partis qui ont pris part au dialogue.
La clôture officielle des travaux du dialogue devrait donc intervenir ce mardi, alors qu'un peu plus tôt dans la journée de lundi, l'Union européenne a rappelé aux acteurs congolais la nécessité de dialoguer et appelé à des élections en 2017. Selon Bruxelles, l'actuel dialogue doit ouvrir la voie à une nouvelle phase d'un processus politique plus inclusif au cours des semaines à venir. Il devrait être clarifié d'ici le 19 décembre la manière dont se déroulera la période transitoire jusqu'aux élections. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Réaction de la France au nouveau développement en RDC. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a estimé aujourd'hui que la décision de reporter à avril 2018 l'élection présidentielle en RDC, prise sans l'aval de l'opposition complète, n'était pas une réponse à la crise. Nous passons maintenant à l'actualité aux États-Unis, présidentielle américaine 2016, duel au couteau, mais en croisie entre les candidats Donald Trump et Hillary Clinton dans le cadre du troisième et dernier débat télévisé entre les deux principaux candidats à la Maison-Blanche, la démocrate Hillary Clinton et Donald Trump, et le républicain Donald Trump. Les détails avec Jacques Aristide.
Oui, Donald Trump retrouvera Hillary Clinton à Las Vegas. La démocrate restée cloîtrée chez elle, près de New York, pour se préparer. Elle devra sans doute se tenir prête à répondre à la publication par Wikileaks de milliers de messages piratés du compte Gmail du président de son équipe de campagne, John Podesta, qui révèle les tergiversations et machinations politiques de la candidate. Elle recueillait néanmoins 45,4% des intentions de vote, en moyenne contre 39,1% pour Donald Trump, d'après la moyenne du site Real Clear Politics. Il y a 4 ans, jour pour jour, Barack Obama n'avait que 0,4 points d'avance sur le républicain Mitt Romney.
Course à la Maison-Blanche toujours, Melania Trump, l'épouse du candidat républicain, a défendu son mari dans une interview diffusée lundi, jugeant que ses propos obscènes à l'égard des femmes enregistrées en 2005 n'étaient que des bavardages entre garçons. Jusqu'à présent, assez discrète dans la campagne du candidat républicain Donald Trump, Melania Trump a accordé sa première interview télévisée à la chaîne CNN. Son mari accuse dans les sondages en retard de 7 points face à Hillary Clinton après le scandale déclenché par cette vidéo et la multiplication d'accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles contre Donald Trump. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.